Bonsoir. Deux thèmes pour le débat de ce soir. 16 morts et une soixantaine de blessés, c'est le bilan officiel provisoire de l'accident de circulation qui s'est produit dimanche dernier dans la commune d'Engaba, sur l'avenue Bypass, menant vers l'université de Kinshasa. Le budget de l'État 2020 pourrait être réduit de près de la moitié si la mobilisation des recettes attendues ne se passe pas comme prévu. C'est ce que révèle le plan de trésorerie publié lundi dernier par le ministère des Finances. Ce sont là les principaux thèmes de ce soir. Et nous avons dans cette émission trois journalistes qui participent. Il s'agit de Thierry Bongo. Il est journaliste à Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa. Bonsoir Thierry Bongo.
Bonsoir Guy Maté, merci de m'avoir invité et bonsoir à tous les auditeurs de la radio onusienne.
Freddy Kiyoyo, rédacteur en chef d'immédiat en ligne élections-net.com. Bonsoir Freddy Kiyoyo.
Bonsoir Guy Maté, salutations à Thierry Bongo qui est au studio et puis nos amis qui sont en grande AGK. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre à vous pour analyser un peu la société d'aujourd'hui sur Tribune de Presse Radio Okapi.
Merci beaucoup, Charles Mukendi, rédacteur en chef de la radio catholique d'Itunga à Ngandajika, province de la Lomami. Bonsoir, Charles Mukendi.
Bonsoir, Guy Maté. Bonsoir à tous les confrères.
Et bienvenue à tous dans cette émission. Nous allons commencer par voir comment la presse quinoise a traité l'actualité de la semaine à travers cette revue de presse que nous propose Kéline Kouté.
Bonsoir, commençons cette revue de presse par les réactions enregistrées après la publication du plan de trésorerie par le ministère des Finances. Le ministre du Budget, Mayo Mambeke, a tenu à fixer l'opinion sur des interprétations erronées et fantaisistes à la suite de la publication par le ministère des Finances du plan de trésorerie, rapporte l'avenir. Ce plan de trésorerie, explique le journal, est un outil de bonne gestion des finances publiques et n'est pas à confondre avec le budget de la République coulé dans la loi des finances. Ainsi, le plan de trésorerie est ajustable, c'est-à-dire varie périodiquement en fonction des données en présence, conclut le quotidien. Forum des As note que techniquement, le plan de trésorerie est un document qui permet d'identifier tous les encaissements et tous les décaissements prévisibles d'une entreprise au cours de la première année de son existence. Le Fonds monétaire international avait demandé à la RDC de faire preuve de plus de réalisme dans ses dépenses, rappelle le journal. Sur demande de l'institution, le gouvernement congolais a publié mardi 18 février un plan de trésorerie, un instrument qui devrait lui permettre de rationaliser ses dépenses après ses dérapages en 2019, fait remarquer le quotidien. À en croire Jean-Baudouin Maillot, écrit deskeco.com, ce document va permettre à la RDC de prévoir les recettes qu'elle va atteindre dans les prochains jours pour que ses dépenses soient contenues afin d'atteindre les performances exigées pour signer le contrat avec le FMI. Mais assure la prospérité qui reprend la déclaration du ministre Maillot, le budget n'est nullement modifié et le gouvernement n'a pas le pouvoir de le faire. Parlons à présent de cet accident de circulation à Kinshasa qui a coûté la vie à plusieurs personnes dimanche 16 février 2020. Jour consacré à Dieu pour les croyants, le dimanche 16 février s'est curieusement transformé en un véritable cauchemar pour les habitants de Kinshasa. Un accident de circulation d'une extrême horreur a brutalement arraché à la vie 15 Kinois, plongeant par les faits de nombreuses familles dans les deuils, rapporte le Phare. Selon les témoins de l'événement, indique le journal, un camion ben en provenance de Mongafula sur l'avenue Bypass, accusant probablement une défaillance des freins, a marché littéralement sur plusieurs véhicules, petits gabarits, taxis et taxibus, motos et piétons, dans des obstacles ainsi créés. Le potentiel ajoute que les victimes blessées et mortes ont été évacuées vers les cliniques universitaires de Kinshasa. Alors que le premier chiffre rapporté par la police indiquait 11 morts, explique actualité.cd, qui s'appuie sur les sources du ministère de la Santé, 14 corps ont été acheminés à la morgue des cliniques universitaires. Les mêmes sources précisent que ce bilan peut encore varier étant donné que d'autres blessés ont été acheminés dans d'autres structures médicales, conclut le site web parlant d'une quarantaine d'accidentés. Aussitôt informé, rapporte Forum des As, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiné Ngobila Mbaka, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. À en croire Jean-Tiné Ngobila, les autres cas de blessés graves non encore stabilisés se trouvent aux soins intensifs des cliniques universitaires et au bloc opératoire, ajoute le tableau. La morgue des cliniques universitaires n'ayant pas la capacité de contenir plusieurs morts, deux ambulances ont embarqué environ 9 corps pour les acheminer vers l'ex-hôpital Mamayemo, indique le journal.
Merci à vous, Kelly Nkouté, Thierry Bongo, journaliste à Africa TV Télévision qui émet de Kinshasa. C'est quoi l'actualité de la semaine que vous commentez ce soir?
L'actualité de la semaine que j'aimerais commenter ce soir, c'est ce colonisme que je suis en train de voir se développer au sein des institutions, au sein de la société, au sein même de certains partis politiques.
Vous appelez ça colonisme?
Oui, j'appelle ça le colonisme. Permettez-moi ce néologisme. Oui, parce qu'on remarque que le clown ne porte pas que ses guenilles et ne n'use plus que de machettes. Le clown a aussi ses gens qui portent des pensées négatives et nocives vis-à-vis de nos institutions.
Et donc c'est une tendance?
C'est une tendance, effectivement. Nous avons remarqué recrudescence dans les quartiers. Ils sont revenus, ces jeunes gens qui nous ravinent nos biens impunément au vu au sud de la police. Mais nous le remarquons aussi dans les institutions. Dans l'exemple à appui, vous voyez que dans ce pays, la haute cour prend une décision en faveur plutôt d'un député provincial et le président de son institution qui est censé le défendre refuse son application et le dit haut et fort devant les médias.
Et là vous parlez du dossier
Mike Mukebaye. Je suis franchement offusqué de voir que la haute cour qui représente la sommité de la justice au Congo représente la sommité du respect de la loi en
RDC, la cour constitutionnelle
n'est pas respecté par un chef de corps, un chef d'une institution provinciale. Alors, où va-t-on? C'est ce qu'on appelle encore du colonisme. Et le colonisme, vous voyez encore dans certains partis politiques, où vous arrogez encore les pratiques d'antan. Hein, on a l'impression que certains partis politiques aimeraient devenir des partis État. Quel est ce parti qui a le droit, qui peut s'arroger le droit de pouvoir aller contrôler les travaux publics?
Là, vous faites allusion à quel
parti? Je parle de l'UDPS qui est parti en congrès et qui sort de ses résolutions une décision de partir vérifier l'effectivité de la réalisation des sauts de mouton. Où allons-nous? Vous avez choisi la démocratie. La démocratie agit de certaines manières. Il a ses canaux, il a ses principes. Vous n'êtes pas un parti politique, une association du fait privée qui n'est pas une institution étatique. Même si votre président ou je ne sais qui encore occupe les institutions, vous ne pouvez pas vous arroger en censitaire pour décider de faire ce que vous voulez parce que vous êtes le parti au pouvoir. Non et non. On a même vu dernièrement, dans la commune de Ngalema, certains militants d'un parti politique, ce parti politique-là, venir en masse pour venir réhabiliter leur bourgmestre qui a été suspendu. Décision a été prise.
Vous ne citez pas les noms du parti politique.
Je parle toujours de l'UDPS, où on a vu des militants venir envahir la cour de la commune de Ngalema. Où allons-nous? J'ai l'impression que le choix de la démocratie a été mal assimilé. La démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. La démocratie, ce n'est pas le fait que vous êtes minoritaire dans une institution, vous devez impliquer la rue. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Je crois que l'UDPS est un parti au pouvoir. Il a les rênes, il a les moyens, il a les tenailles pour pouvoir agir en tant que parti au pouvoir et non comme un parti.
Et à travers les institutions, n'est-ce pas?
Effectivement.
Freddy Chiyoyo, rédacteur en chef du média en ligne élections-net.com. C'est quoi l'actualité que vous commentez ce soir?
Merci Guy Mathieu. En fait, moi je dénonce cette campagne d'intoxication et de l'opinion commentée par les personnes du CACH et du FCC contre M. François Béya. François Béya, c'est monsieur conseiller spécial sur l'état matière de sécurité, est victime d'une campagne de mauvais goût commanditée par certains groupes de gens en mal de positionnement contre sa personne, comme quoi François Béya aurait trahi l'ancien président Joseph Kabila au profit du nouveau. Là, c'est d'après certains gourous du FCC. Pour le cas, je affirme que Béya est en train de déjouer leur plan, tout ça. En fait, j'ai comme l'impression que les gens n'aiment pas que les gens se fassent, les choses se fassent normalement comme c'est faux, comme il se doit. Dans le passé, les anciens gangs de la mouvance présidentielle pouvaient s'évertuer, arriver à l'aéroport, sans passer au check-in, sans passer au contrôle, et prendre les avions, ils volent et puis ils descendent sans contrôle. Maintenant, qu'on met un peu de l'ordre, sous l'impulsion des messieurs qui sont de la structure du chef de l'État, M. François Béya, et on crie à la manipulation, on crie comme quoi on dit que ces messieurs-là veulent rendre des comptes. Je pense que aujourd'hui, l'illustration de M. Kalev Chadari, Jeannette Kabila, cela montre que nous sommes réellement entrés dans l'état des droits. C'est-à-dire que il n'y a pas des gens qui doivent se croire être au-dessus de la mêlée. Ça veut dire que avant d'aller à l'aéroport, vous devez avoir votre passeport dûment valide, un passeport que vous devez détenir et non usurpation de passeport par rapport aux fonctions que vous n'occuperez peut-être pas. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé récemment au niveau des services migratoires doit interpeller plus d'un Congolais que les choses ont changé, que ce qui s'est passé dans l'état passé ne va plus se répéter dans la mesure où nous sommes déjà intégrés dans cette dimension-là, dans cette dynamique de vouloir mettre en place les choses telles qu'elles devraient être.
Merci Charles Mukendi, rédacteur en chef de la radio catholique d'Itunga en Ngandajika, province de la Lomami. Qu'est-ce qui domine l'actualité aujourd'hui en Ngandajika?
Eh bien, c'est cette manifestation qu'organise la population des Ngandajika, la société civile donc, contre l'appartenance des Ngandajika à la province de Lomami. Ngandajika réclame, selon les signataires, donc les organisateurs de cette manifestation, le retour au Kasaï oriental. Ils ne demandent pas qu'on supprime la province de Lomami, mais plutôt qu'on revoie les limites pour que le territoire des Ngandajika, qui est plus proche du Kasaï oriental, parce que c'est le souci était de rapprocher l'administré de l'administration. Ngandajika se trouve à quelques 90 km de Mbujimayi, à plus ou moins 150 km de Cabinda, qui est le chef-lieu de la province de Lomami. Ngandajika est plus porté vers Mbujimayi que vers Cabinda. Ça a commencé depuis un certain temps. Chaque troisième vendredi du mois, les habitants de Ngandajika manifestent pour réclamer ce retour. Ils avaient déjà signé une pétition en 2011, et la pétition a été déposée. Il y a des accusés de réception au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, je crois, même au gouvernement. Et donc, c'est là qui domine l'actualité. Mais il faut dire aussi que l'actualité à Cabinda est dominée par cette arrestation du maire de la ville de Cabinda, qui est le chef-lieu de Lomami. Le maire a été arrêté parce que, semblerait-il, il a quitté le PPRD pour l'UDPS. Il y a des gens qui sont allés pour les tabasser chez lui. Et quand il a dénoncé, il pensait que ça venait de la part de l'autorité provinciale. Il a été arrêté, amené en prison. Aujourd'hui, on apprend qu'il a été relâché, je crois. Ce sont les deux points qui font l'actualité sur place.
Merci. Notre premier thème de ce soir, 16 morts et une soixantaine de blessés, c'est le bilan officiel provisoire de l'accident des circulations qui s'est produit dimanche dernier dans la commune de Ngaba sur l'avenue Bypass menant vers l'université de Kinshasa. La cause de cet accident, un camion qui transportait les caillasses en provenance de Mongafula a fini sa course sur les véhicules, les motos et boutiques. À la clinique de Mubiala, où sont également soignés les blessés, les médecins directeurs indiquent que les traitements des blessés posent problème faute de moyens. Grâce à Mouzati, s'est rendu tour à tour aux cliniques universitaires et à la clinique Mubiala. Il nous fait le point de la situation.
La dernière nouvelle, c'est que maintenant c'est 16 décès que nous venons d'enregistrer.
Lui, c'est le médecin directeur adjoint des cliniques universitaires. Il estime que le bilan pourrait s'alourdir au regard des cas critiques de plusieurs blessés. Docteur Bodima Biala Joseph.
Il y en a qu'on est en train d'opérer, même maintenant que je vous parle, parce qu'il y a des gens qui ont des fractures, il y en a qui ont des hémopéritoines, il y en a qui ont des hémothorax. Donc, bref, il y a beaucoup de blessés.
Le médecin directeur adjoint affirme que jusque-là, les cliniques universitaires attendent encore les financements promis par le gouvernement pour subvenir aux soins des malades. D'après lui, hormis l'enveloppe laissée par le gouverneur de la province de Kinshasa ce dimanche, l'hôpital se débrouille avec les moyens du bord. Quant à la clinique Mubiala, où d'autres blessés sont hospitalisés, le médecin directeur dit avoir déjà libéré un garçon de 13 ans sur les 16 blessés reçus. Cependant, Dr Mubiala craint que les 15 autres cas s'aggravent vu le manque de matériel nécessaire pour les soigner. Du côté des victimes, c'est une douleur atroce. C'est le cas de cette jeune fille qui dit ne plus croire en sa survie.
Je dirais seulement qu'on nous aide. Je n'arrive même pas à bouger. Les jambes et les dos sont fracturés. Ça fait très mal.
L'accident s'est produit ce dimanche au niveau des triangles, route menant vers l'université de Kinshasa. Un camion poids lourd qui transportait les caillasses a heurté piétons, motards, vendeurs et 7 autres véhicules à la suite d'une panne de frein. Le conducteur a pris la fuite et son convoyeur est mort sur les coups.
Merci à vous, grâce à Mzati, Thierry Bongo, journaliste à Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa. Nous venons de suivre ces reportages poignants, n'est-ce pas, de grâce à Mzati. Comment vous expliquez cet énième accident sur les routes de la RDC? Accident mortel.
Bon, d'abord, il faut
reconnaître que c'est assez poignant d'entendre tous ces cris, ces pleurs de Congolais qui sont dans des douleurs atroces, non pas de leur propre vouloir, mais parce que d'autres personnes, d'autres citoyens ont décidé de mener une vie incontrôlée et insoucieuse des autres. C'est une interpellation par rapport à la notion de citoyenneté que nous devons tous cultiver en tant que Congolais. Il est anormal que dans son fonctionnement, le Congolais puisse ne penser qu'à soi-même. Ce chauffeur qui a sauté du véhicule pour laisser ce grand camion se faire ses dégâts est un inconscient. Il aurait dû, s'il était un vrai patriote, chercher une autre solution, même au prix de sa propre vie. Parce que c'est une sorte d'homicide, bien qu'involontaire, mais voulu aussi quelque part. Ce que moi j'aimerais relever dans ce dossier, personnellement, c'est d'abord cette incapacité que nous avons remarquée de nos autorités publiques, des pouvoirs publics, de pouvoir gérer une situation de catastrophe de ce genre. Pour une soixantaine de blessés, vous vous rendez compte que l'hôpital qu'on appelle clinique universitaire, qui est compté parmi les trois grands centres de la capitale, se trouve en rupture de poche de sang, se trouve en rupture d'intrants et de moyens, se trouve dans des situations de manque de matériel pour une catastrophe qui touche pratiquement 60 personnes. Mais si on arrive dans ce qu'on voit dans d'autres pays du monde avec des grandes catastrophes qui touchent des centaines de personnes, qu'est-ce que nous n'allons pas vivre dans ce pays ? Nous nous rendons compte effectivement que le gouvernement que nous avons ici n'a pas la capacité de pouvoir gérer les catastrophes publiques. Or, ça fait partie justement de ses prérogatives, de pouvoir gérer l'avenir. On ne sait jamais quand ça peut arriver. Personne n'avait souhaité que ce camion puisse faire cet accident-là.
Et ailleurs, on appellerait à la solidarité de tout le monde. Les gens viendraient, n'est-ce pas, faire des dons de sang et...
Avant que la solidarité de tout le monde vienne, les États organisés prévoient. Nous avons un ministère des Affaires sociales. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment ?
Et Action humanitaire.
Action humanitaire. C'est le ministre Mbika, si je ne me trompe pas. Que fait-il en ce moment ? On ne l'a même pas entendu depuis. Je ne sais pas si tu l'as entendu, Guy Maté. Mais moi, depuis que ça a commencé, je ne l'ai pas entendu. Hein ? Ces genres de catastrophes se multiplient. On a compté des morts il y a quelques mois avec l'incendie de Manzangungu. On a compté des morts par bateau. En RDC, on meurt par bateau. On meurt par les balles des ADF. On meurt par les routes. C'est intenable.
On a l'impression d'avoir banalisé la mort dans ces pays.
On a banalisé totalement la mort et on n'a pas encadré justement la mort. Il y a aussi un autre sujet que j'aimerais porter par rapport à cela. C'est cette façon cavalière que notre Société Nationale d'Assurance a à pouvoir sauter sur ces genres de catastrophes pour faire sa publicité. La SONAS vient avec 20 000 dollars, selon mes informations, pour indemniser un camion qui porte une plaque d'immatriculation d'un autre véhicule. Le camion en soi, selon mes informations, n'a même pas été assuré. La plaque d'immatriculation qu'elle porte, c'est celui d'une pick-up. Et l'assurance d'une pick-up n'est pas la même que l'assurance d'un camion Ben.
Alors, c'est quoi, à votre avis, les motivations de la SONAS ?
Publicité, merci. Concurrence, déloyale. Parce qu'aujourd'hui, on a libéralisé le secteur de l'assurance. La SONAS pense qu'elle peut se faire une vitrine sur le sang des Congolais et ses malsains et ses mesquins.
Pour se crédibiliser. Freddy Tuyoyo, rédacteur en chef des médias en ligne élections-net.com. Les mêmes causes sont évoquées. Les véhicules avec un système de freinage défectué, l'ivresse au volant, conducteur non qualifié. Finalement, on a l'impression que l'État congolais, au lieu de faire respecter la norme, au lieu de faire respecter la loi, se limite à dénoncer l'entêtement, n'est-ce pas, de certains conducteurs seulement lorsque les accidents se produisent. Pourquoi l'État congolais n'agit pas en amont ?
D'abord, laissons quand même le fils que l'État pourrait d'abord présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées à la suite de ces décès inopinés qu'on a tous suivis le dimanche passé. En fait, mon cher ami, je pense que les responsabilités sont partagées dans la mesure où nous, peuple congolais, nous n'avons pas cet éveil citoyen dans la mesure où remarquez très bien les trousseaux contraintes rond-point Ngaba et à la place Triangle, lieu où a eu l'accident. Cet endroit, c'est un boulevard à quatre bandes. Mais remarquez, le marché rond-point Ngaba déborde sur la chaussée, ce qui rend la fluidité difficile dans ce tronçon-là. parce que les gens vont à même les sols sur le macadam, et lorsque vous leur appelez de rentrer à l'intérieur, est-ce qu'il y en a pour Samboka Oyo? Oh, il y en a pour Samboka Oyo. Donc vous comprenez quelque part, nous, population, nous participons souvent à ces dégâts-là. Maintenant, imaginez maintenant ceux qui vont à même les sols sur le macadam, être un conducteur ivre des ododo ou un peu de l'herbe, il rate son frein, il y aura mort de mon corps demain après-demain. Et quelque part aussi, c'est l'État aussi qui ne veut pas s'impliquer, qui n'est pas fouetté. J'ai aimé saluer le geste de M. gouverneur Ngobila, qui est en train de marcher de Kinshasa, cassant les étalages sur Itaga, sur Kato, et puis réouvrir ces avenues-là. C'est une bonne chose. Mais malheureusement, lorsqu'ils partent, ce sont les administrateurs, avec la complicité de certains policiers, qui vont encore faire revenir ces mêmes amants encore, comme quoi, Balère n'a pas moqué, moqué Wana. Alors, vous voyez que je pense que là, toi et moi sommes complices dans tous ces dérives que nous déplorons aujourd'hui. Je pense que même le chauffeur, le taxi, au rond-point triangle là, comment est-ce qu'ils stationnent leur taxi moto là? C'est pratiquement sur la route. Et puis, la descente, là, avec le camion Ben. Malheureusement, dans ce pays-ci, on nous a tous escroqués avec le contrôle technique, parce que ces véhicules étaient censés être contrôlés, étaient censés détenir des documents issus du contrôle technique. Alors, si seulement il y avait contrôle technique, est-ce que on pourrait être surpris de voir un camion Ben avec un frein défectueux? Là, je pense que c'est de l'escroquerie nationale. L'État et Kimbuta, malheureusement, on ne s'est pas fouiné dans le passé. Je pense que ces gens-là devraient être rappelés à l'ordre. Comment est-ce qu'on a laissé ces véhicules-là circuler avec des freins défectueux pour causer la mort aux Congolais pendant qu'on ne cesse de pleurer des morts des bénis et nous en apporte juste encore. Merci. Donc tout ça, je pense que l'État qui se parlait un peu absent, l'État n'agit pas. Heureusement qu'il y a un nouveau leadership qui devrait être insufflé, un nouveau souffle pour que les choses puissent un peu se remettre sur les rails.
Merci Frédéric Chioyo. Charles Mukendi, rédacteur en chef de la radio catholique d'Itunga, en Ngandajika, province de la Lomami. Le constat est partagé par tout le monde. Rien n'est fait en amont pour réduire les risques d'accidents sur les routes congolaises. Tout le monde semble avoir démissionné, en commençant, n'est-ce pas, par les confrères, les journalistes de l'ont relevé ici, en commençant par les différents services publics intervenant dans ces domaines, ainsi que les usagers de la route qui, n'est-ce pas, s'habituent à certaines pratiques dangereuses, des pratiques pernicieuses, comme par exemple obtenir de ces services des documents qui attestent que le contrôle technique a été fait, alors que ce contrôle n'a pas été effectué. Alors comment vous expliquez une telle situation, Charles Mukendi?
Bien matin, laissez-moi d'abord dire que ce sont des morts de trop. On n'avait pas besoin de... personnes qui meurent comme ça, j'allais dire gratuitement, pour en fait des légèretés. C'est notre légèreté à nous tous dans notre société, c'est vrai, vous l'avez relevé. Je venais d'arriver ici, je suis venu de Kinshasa il y a moins de 2 semaines maintenant, et alors j'ai vu comment vos routes à Kinshasa sont, j'ai eu très peur. Il fallait vraiment voir combien d'états on a mis dans des bouchons, c'était compliqué tout cela. Mais quand vous regardez à gauche, à droite, vous avez l'impression que nous nous complaisons dans cette situation. Et en fait, ça arrive à cause de notre légèreté. Chacun veut un peu tricher. Chacun veut... vous avez parlé de la citoyenneté. La citoyenneté entraîne la responsabilité. Nous ne sommes pas suffisamment responsables, nous autres Congolais. Et lorsque j'ai mon petit intérêt, je me permets tout. Comment un camion qui n'a pas été contrôlé peut se permettre, dans ces embouteillages que j'ai vus à Kinshasa, d'aller rouler comme ça pour, en fait, nous offrir ces morts? Ça, c'est grave. Et ça nous interpelle en tant que citoyens. Nous devons donc reprendre notre responsabilité pour comprendre que lorsqu'on ne respecte pas la loi, c'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal. C'est le non-respect de la loi. Nous avons appris à jongler avec les codes, à jongler avec la loi. J'ai vu ce que ça coûte à Kinshasa. Et en tout cas, quand je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai eu vraiment la chair de poule.
Oui, Thierry Bongo, une interpellation comme vous l'avez relevé dans votre intervention. Lorsque les dispositions ne sont pas prises pour assurer cette sécurité routière et que cela est des notoriétés publiques, on sait que c'est la vie de tout le monde, n'est-ce pas, de toute la société qui est exposée. Mais on se rend compte que nous, la population, nous ne dénonçons pas. Et il y a même des structures, n'est-ce pas, qui sont organisées, des ONG de défense des droits humains, parce qu'en fait, il y a les droits humains qui sont impliqués dans cette question. Les ONG de défense des droits humains, quand chaque fois qu'il y a un événement sur le plan politique, elles réagissent, elles font des recommandations. Mais lorsque c'est pour des problèmes qui touchent directement à la vie du citoyen, ces ONG restent muettes. Comment vous expliquez cela?
Non, mais il ne faut pas aussi taper du poing sur les personnes qui doivent réagir. Il faut taper du poing sur les personnes qui doivent agir en réalité. Vous savez, dans l'histoire de l'État,
lorsque ceux qui doivent agir ne font pas le travail comme ils se doivent, n'est-ce pas qu'il appartient à la population, à travers ces ONG, de pouvoir dénoncer, de pouvoir faire pression au pouvoir public.
Là, tu m'envoies faire un procès à ce qui se passe en termes de société civile en RDC. Je ne le ferai pas, je n'en ai pas le temps. Mais il faut constater avec... Je remarque que tu constates comme moi que nous avons un sérieux problème dans nos organisations de société civile qui, ces derniers temps, semblent être un peu essoufflées. Il n'y a que la CAGE que nous entendons parler et pourtant il y a beaucoup d'autres structures de la société civile qui doivent s'occuper de ça. Mais en réalité, tout cela résulte de la désarticulation de la société. Hein, l'État en tant que tel est désarticulé. Il y a une sorte de puzzle qui constitue l'État congolais aujourd'hui qui est mal agencé.
Nous
constatons effectivement, non, démission c'est peut-être un petit peu trop dire, il y a des bonnes volontés qui
l'inexistence
existent,
de l'État.
Il y a des bonnes volontés qui existent, mais on se trouve dans une situation de désordre tellement bien organisé que pour déficeler tout ce méli-mélo, ça va pas être facile. Le contrôle technique, c'est ça le point d'orgue en réalité. Cet accident-là révèle justement qu'il n'y a pas eu de contrôle technique en RDC. Mmh. Il y a un document qu'on a vendu qui s'appelle contrôle technique, mais qu'il n'y a pas eu de contrôle technique. Combien de véhicules sont passés à ce fameux contrôle? Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a eu un grand débat au début quand on a lancé cette opération. C'est de la capacité même des structures qui organisent ces contrôles techniques à le faire pour tous les véhicules. Est-ce qu'on fait les contrôles techniques en amont quand les véhicules entrent ici en RDC? Est-ce que ces contrôles techniques doivent se faire quand? Est-ce que, effectivement, ce véhicule-là était encore en état de pouvoir rouler en RDC? S'il faut transformer le contrôle technique en taxe, c'est là où le bât blesse. On doit faire le contrôle technique gratuitement et on verra le reste après.
Et donc, à votre avis, c'est l'une des mesures qu'il faut prendre pour réduire les risques de ce genre d'accident?
Il faut qu'on puisse voir vraiment au clair l'attribution de cette sorte de passe-droit qui s'appelle contrôle technique, l'attribution de ce passe-droit qu'on appelle aussi permis de conduire, parce que tous ces deux documents sont octroyés au marché noir et à n'importe quel agent de l'État sans passer par les procédures usuelles.
Frédéric Chirio, à votre avis, c'est quoi la solution et quelles sont les mesures qui doivent être prises, n'est-ce pas, pour réduire le risque d'accident sur les routes de la RDC?
En fait, je m'adresse à celle de M. Freddy Bongo. C'est-à-dire qu'il faut un peu des rigueurs dans l'attribution des permis de conduire. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, hôtel, école est maintenant partout. Quand tu te rends devant le stade des martyrs, chacun a un véhicule déjà usé, un véhicule qui ne répond pas aux normes, mais il y a une femme là qui prend le plaisir d'apprendre sur un véhicule qui n'a plus tous les manuels en place. Donc vous apprenez à conduire sur un véhicule qui n'a pas tous les éléments qu'un véhicule doit avoir. Et avec ça, au bout de 3 semaines, vous vous placez sur le boulevard et vous allez à la réveillère, vous allez avec vos 50 dollars, vous avez un permis de conduire. Et là, ça s'est fait au grand jour, sans aucun suivi, sans aucun test par rapport à la connaissance ou à la maîtrise du code de la route. Et facilement, vous obtenez comme ça un permis de conduire. Je pense qu'une part là, l'État a été un peu lâche. Je pense que l'État doit maintenant se relever. L'État doit maintenant prendre ses responsabilités en main. L'État doit maintenant faire le suivi de savoir qui est habilité à mettre un véhicule sur le boulevard et rouler et s'assurer que ces messieurs-là qui est en train de rouler c'est observer les principes qui doivent dicter sa conduite sur la voie publique. Donc voilà parce que je voulais dire, il faut un peu de rigueur dans la délivrance des documents des mains de l'État pour éviter ce qu'on a vécu dans le passé.
Merci Charles Mukendi. Nous sommes encore une fois de plus, n'est-ce pas, obligés à faire une comptabilité macabre parce que apparemment nous n'avons pas tiré les leçons des accidents passés. Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci on a tiré les leçons et que les dispositions seraient prises à tous les niveaux, hein, au niveau de l'État, au niveau des citoyens lambda, au niveau des conducteurs, et pour que l'on puisse, n'est-ce pas, peut-être pas empêcher ce genre d'accident, mais réduire les risques de ces accidents?
Je suis vraiment, j'allais dire, quelque peu pessimiste parce que chaque fois, quand ça nous arrive, lorsqu'on a un accident, lorsqu'on a une catastrophe de ce genre, vous entendez tout de suite, nous allons en parler et puis après, ça va s'arrêter là. Je crois qu'il faut une prise de conscience générale. Il faut que l'homme congolais que nous sommes puisse, en tout cas, se prendre au sérieux. C'est un problème de Congolais, de l'homme congolais. Nous devons nous tous changer. Nous devons nous lever, nous tous, pour arrêter ce genre de choses. Nous devons prendre conscience de notre responsabilité en tant que peuple, en tant que Congolais. Sinon, nous aurons toujours des catastrophes à déplorer.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, le budget de l'État 2020 pourrait être réduit de près de la moitié si la mobilisation des recettes attendues ne se passe pas comme prévu. C'est ce que révèle le plan des trésoreries publié lundi dernier par le ministère des Finances. Ce document du gouvernement rappelle que le budget 2020 a été voté en équilibre à 18,5 milliards de francs congolais. Ce montant global est ramené selon le plan des trésoreries à 13,88 milliards de francs congolais. On écoute le vice-premier ministre et ministre des Budgets faire la mise au point au sujet de ce plan de trésorerie.
Le plan de trésorerie n'a pas vocation à se confondre nécessairement au budget. Le budget reste le budget, c'est le cadre légal. Tandis que le plan de trésorerie n'est qu'un instrument pour la gestion de ce budget-là. Vous savez que notre pays est en pré-programme avec le Fonds monétaire international. Il y a des critères de performance que nous devons atteindre, notamment le financement zéro de la Banque centrale. Donc nous ne devons vivre que sur la base caisse, la base recette réalisée. Sur le plan de recette, il y a des mois où il y en a beaucoup, il y a des mois où il y en a moins. Alors, pour ne pas tomber dans le piège de déficit, pour en appeler au financement de la Banque centrale, la prudence voudrait que nous ayons un plan de trésorerie. Nous sommes en train de faire une prévision minimale de nos recettes dans le mois, dans la période, pour qu'on ne dépasse pas. N'oublie pas qu'il y a des dépenses contraignantes qui doivent être rencontrées systématiquement. Alors, le plan de trésorerie, ce n'est pas une minoration du budget. Le gouvernement n'a pas le pouvoir de réduire le budget car c'est une loi.
C'était le vice-premier ministre et ministre des Budgets, maître Jean-Baudouin Maillot, qui a été joint par Grace Hamzati. Freddy Kiyoyo, rédacteur en chef du média en ligne élections-net.com. Nous venons de suivre des explications de maître Jean-Baudouin Maillot, ministre des Budgets, qui fait une distinction, n'est-ce pas, entre les budgets de l'État, qui est une loi des finances, et les plans des trésoreries. Mais est-ce qu'on ne peut pas déjà, à ce stade, anticiper, comme l'ont fait certains médias, en affirmant que les chiffres contenus dans ces documents sont des indicateurs sur ce que doit être en principe le budget 2020, c'est-à-dire il doit être réduit de moitié.
D'abord, il faut d'abord faire une pédagogie à l'intention de le public qui nous suit, parce que la radio KP est suivie à travers le pays. Il faut d'abord nuancer que le plan de trésorerie devrait se distinguer du budget national. Le budget qui est une loi votée par le Parlement. Et nous savons que tous, l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Thierry Bourgoin ne me contredira pas. Pendant que le plan de trésorerie est un outil de pilotage de l'exécution du budget de l'État au regard des fluctuations de la conjoncture et des contraintes actuelles. Là, vous comprendrez que là, c'est par rapport à une conjoncture. C'est dû au rendement que nos régies financières fournissent à l'État. Par exemple, au mois de janvier, combien on a produit, et lorsqu'on en prend avec le FMI, on vous démontre que vous ne devez faire que des dépenses sur base des dépenses caisses, donc des bénéfices engrangés par rapport à votre production.
Ça vous dit seulement que... Oui, mais est-ce que ces indicateurs-là qu'on venait de le dire par rapport à la conjoncture ne peuvent pas pousser déjà à ce stade de dire que les budgets devraient être réduits de moitié? Est-ce qu'on peut pas déjà conclure ainsi?
Non. Jusque-là, depuis que ce débat a commencé, je n'ai pas entendu une seule fois parler d'un correctif budgétaire, non. Quand on parle de correctif budgétaire, cela voudrait dire que le gouvernement rentre à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse revoir le budget. Jusque-là, le budget des 11 milliards, c'est la loi, papa. C'est la loi que le premier doit bien retenir. La loi des finances pour 2020 est de 11 milliards. D'abord, de 10 milliards au niveau du gouvernement, et le Parlement arrive à la hausse à 11 milliards. Donc jusque-là, en tout cas, qu'on ne puisse pas mettre la confusion dans les chiffres de la population comme quoi que le budget a été privé à la baisse.
Merci.
Vous avez des indications, oui. Ce sont des indications dues à la conjoncture actuelle. Actuelle, les indications sont que le plan de trésorerie par rapport aux dépenses caisse, conformément au programme du FMI de la Banque mondiale, qu'on puisse atteindre 5,6 milliards.
Merci.
Ce serait qu'une période. Vous comprenez un peu? Donc, jusque-là, c'est la conjoncture. On ne peut pas supputer, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'a dit le gouvernement et le FMI.
Merci.
C'est une question d'être réaliste pour ne pas se mettre dans des nuages. Ce qui peut exploser après demain, puisque chaque jour a ses réalités, n'empêche que demain, avec le boom pétrolier, avec le boom minier, avec le nouveau code minier qui sont déjà suspendus avec le réseau du Glencore, qu'on peut faire en grageant comme beaucoup de recettes. Et demain, on peut maintenant atteindre 8 milliards.
Merci Freddy, nous avons compris. Nous avons compris Thierry Bongo, journaliste à Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa, des 18 milliards 500 millions de francs congolais, le montant global du budget 2020 est ramené selon ses plans de trésorerie à 13 milliards 88 millions de francs congolais. Est-ce que le ministre des Finances a-t-il raison de conclure ainsi? Où il devrait plutôt attendre que l'initiative soit prise par les parlements. Vous avez suivi Freddy Tchiroyo qui a parlé du correctif budgétaire.
Oui, en fait, en réalité, c'est que les faits sont qu'il n'y a pas eu de correctif budgétaire, donc le budget reste idem. Il n'a pas changé. Le ministre, le vice-premier ministre, ministre du budget, vous l'a dit. La loi, c'est la loi. La loi ne peut être changée que par une loi. Et la loi rectificative ou le collectif budgétaire qui doit rectifier le budget n'a pas été encore convoqué. Sauf que quand vous suivez le point de presse des deux directeurs de cabinet, celui du budget de finances, ils n'ont pas dit que c'est impossible que ce soit fait ainsi. Le plan de trésorerie nous donne des indicateurs, c'est-à-dire comment se comportent les recettes de l'État pendant une période donnée. Et en ce moment, on constate que les recettes ne vont pas très bien. Ce qui était prévu par rapport à cette période n'est pas encore atteint. Et bon, vous savez que dans la gestion de l'État, le premier trimestre comme le second est très important parce que ce sont les ouvertures des années fiscales. C'est à ce moment-là que l'État engrange des paiements. Et c'est cette période-là où il y a beaucoup de paiements, c'est cette période-là où il y a beaucoup plus d'argent. Contrairement au ventre mou qui est le troisième trimestre et difficilement aussi le quatrième trimestre. Donc déjà, on sait avec cet indicateur qui est le plan de trésorerie que l'État attend avoir autant d'argent pendant cette période-ci et que ce n'est pas suffisant par rapport aux attentes. Je crois que le débat ne devrait même pas avoir lieu en réalité parce que depuis plusieurs années, le budget que le Parlement vote a été difficilement atteint en termes de réalisation. Souvent, on nous dit que les recettes, les assignations qu'on donne aux régies, ce sont des recettes, des assignations au minima. Donc, les régies doivent aller au-delà. Mais on a eu toujours difficile, depuis plusieurs années, à les atteindre. Même quand le boom du cuivre va mieux, ou quand on parle de boom pétrolier, on a toujours eu des difficultés à pouvoir atteindre les assignations. Il y a des régies qui les dépassent, il y en a d'autres qui ne les dépassent pas. Mais souvent, le budget a un taux d'exécution en recettes comme en dépenses. Très déficitaire. Alors moi je ne m'étonne pas qu'on puisse avoir un plan de trésorerie inférieur un petit peu aux assignations inscrites dans le budget, mais c'est une réalité. Hein. Il faut qu'on puisse être réaliste. Le budget est une loi certes, mais c'est aussi une sorte de projection de la vision de l'autorité publique par rapport à ce qu'il veut faire de l'État. Hein. Quand le chef de l'État dit qu'il veut avoir 11 milliards de dollars, c'est parce qu'il veut, dans ses ambitions, il veut faire mieux, il veut arranger, il veut faire. Il ne peut pas aller en minima. Les ambitions doivent toujours être excédentaires et c'est les institutions qui doivent se faire de leur mieux pour les atteindre parce que s'il y va très bas, les gens vont aller encore plus bas. Il pose les jalons, il pose les objectifs plus haut et on doit tous faire de notre mieux, enfin les régies doivent faire de leur mieux pour atteindre ces objectifs-là. Ceux qui portent le débat sur la comparaison qu'on fait un petit peu maladroitement entre le budget et le plan de trésorerie, c'est à peu près comme ceux qui regardent le doigt qui pointe la lune.
Et Charles Bukendi, rédacteur en chef de la radio catholique d'Itunga à Nganajika, province de la Lomami. Et au-delà de ces débats que suscite, n'est-ce pas, ces plans de trésorerie, quel pourrait être le mérite de ces plans, Charles Bukendi?
Le mérite, c'est peut-être de démontrer la défaillance de notre capacité de mobiliser des ressources. Mais ce que je veux dire, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça y est, derrière, je vois la Banque mondiale. La Banque mondiale, dès qu'on a commencé à voter les budgets,
Vous savez vous-même comment on l'a voté. Le premier budget qui est venu du gouvernement a été dénoncé par toute la population congolaise et il a été revu à la hausse parce que de partout, les Congolais ont crié pour dire que avec tout ce que nous avons, avec ce que nous sommes comme pays, nous devons avoir plus. Je crois que la Banque mondiale était même venue lorsqu'on a dit qu'on a voté un budget de plus de 10 milliards. Et la Banque mondiale, ou plutôt le Fonds monétaire international, n'était pas très d'accord. Et nous sommes restés dans ce pays élève docile du Fonds monétaire international. Et même à l'époque de Mobutu, même après, mais est-ce qu'on a eu des résultats? Nous sommes en train d'être traînés par le Fonds monétaire international qui nous dicte sa loi. Et maintenant, je vois que c'est en fait le projet social du président de la République qui risque de tomber. Et c'est ça que je crains beaucoup dans cette affaire.
Charles Mukendi.
Oui.
Comment, à votre avis, comment le gouvernement devrait exploiter rationnellement les informations contenues dans ces plans des trésoreries?
Je crois que ce qu'il devait faire, le gouvernement, c'était de réactiver les régies financières. On sait que dans ce pays, on nous a parlé des 15 milliards depuis le régime Kabila, des 15 milliards qui en fait étaient en train d'aller dans les poches des gens. Le gouvernement, s'il pouvait mobiliser, faire en sorte qu'on puisse avoir toutes ces ressources, je crois qu'on aura résolu ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de gabégies financière, il y a des gens qui prennent de l'argent et les circuits, bon, on ne sait pas très bien. Voilà, je crois que l'État congolais ne contrôle pas encore en fait ces régies financières qui n'arrivent pas à mobiliser de l'argent.
Merci Thierry Bongo. C'est vrai que ces plans n'est pas à confondre avec le budget de l'État, mais est-ce que ces plans pourraient avoir des conséquences sur l'exécution du budget 2020?
Non, le plan n'a pas de conséquences sur l'exécution du budget. Le plan lui-même dicte comment est-ce que le budget va être exécuté mois par mois, trimestre par trimestre, pendant une période donnée. Je ne sais pas s'ils ont fait ce plan pour... non, c'est un plan mensuel d'ailleurs justement, celui qui est prévu. Mais en réalité, c'est ça la réalité, c'est que bon, on n'a pas suffisamment de ressources et que les régies doivent faire de leur mieux pour augmenter, pour atteindre ces 11 milliards-là. Les 11 milliards fixés dans le budget, c'est comme un objectif à atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on les atteindra assurément.
Il est souvent demandé aux régies.
Les budgets passés n'ont jamais été atteints malgré les chiffres exprimés.
Voilà, il est souvent demandé aux régies financières de pouvoir mobiliser beaucoup des recettes, mais on ne fait pas ce qui doit être fait en amont, c'est-à-dire initier des réformes, parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous avons du mal à combattre le coulage des recettes publiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par là?
C'est une réalité, effectivement. Moi, je pense même que le chef de l'État devrait s'approprier le rapport de Luzolo Bambi, qui détaille justement comment est-ce que l'argent n'entre pas dans les caisses de l'État, comment ça n'entre pas dans les caisses de l'État, et à partir de ce rapport-là, il peut savoir comment capter les 15 milliards tant vantés.
Voilà. Freddy Thiriot, à votre avis, c'est aussi la fin de l'émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ces budgets, pour que nous puissions, en dépit des indicateurs contenus dans ces plans des trésoreries, que nous soyons à mesure de réaliser ces budgets d'environ 11 milliards de dollars américains?
En fait, pour les gens, il faut aussi comprendre aussi que, vous savez, la coalition se cache chez une coalition des hypocrites. En fait, il y a un nouveau décembre qui est arrivé, impulse un nouveau budget de plus ou moins 10 milliards, si on n'a pas vécu pendant 18 ans, alors il faut comprendre que cela puisse un peu déranger, puisse faire des intérêts. Vous voyez, parce que il n'y a pas une année que M. Luzolo Bambi, qu'on respecte l'État en matière de déblanchiment de capitaux, a dit clairement que plus ou moins 15 milliards sont volatilisés comme ça et va dans les poches des gens. Mais comment est-ce que on émet une vision politique de 10 milliards et qu'on puisse rencontrer des difficultés seulement deux mois après? Et moi, je suis d'abord objectif, je suis positif que, comme a dit Thierry Bongo, ce n'est qu'un plan de trésorerie qui donne les indications par rapport à la mobilisation des recettes. Donc, je pense qu'il faut que chacun, dans sa partie de pouvoir, puisse faire sien ses budgets afin que chaque partenaire apporte du sien et puis je pense qu'avec la volonté politique de chacun et de chacune, 10 milliards c'est facilement exécutable pour cette année.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Ntiala qui est à la technique et Kéline Kouté qui a réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Gancho. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.